Saviez-vous que l'intelligence artificielle reproduit des biais sexistes et participe à ancrer des stéréotypes de genre dans la société ? La chercheuse Aude Bernheim était présente à l'Espace des sciences mardi dernier pour animer une conférence à ce sujet. Elle nous en parle plus en détail. Bonjour Aude Bernheim.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en biologie moléculaire et vous travaillez à l'INSERM à Paris. Alors, vos recherches portent sur les ciseaux à ADN CRISPR-Cas9. Est-ce que vous souhaitez peut-être dire un petit mot d'abord pour débuter sur vos travaux, avant de creuser un petit peu plus la thématique de l'intelligence artificielle ?
Oui, alors j'ai la chance de mener une équipe de recherche autour des questions des virus, des bactéries, parce que les bactéries elles-mêmes sont infectées par des virus, comme les humains, et je travaille de façon plus globale sur comment les bactéries se défendent contre leurs propres virus. Et dans tous les systèmes immunitaires des bactéries, donc comment elles se défendent contre leurs virus, il y a beaucoup de choses très intéressantes d'un point de vue fondamental, ce qui est le cœur de ma recherche, mais aussi en termes d'application pour lutter contre les maladies infectieuses, c'est-à-dire pour lutter contre les bactéries et contre les virus.
Alors, en plus de vos activités de recherche, vous êtes très engagée dans la lutte pour l'égalité des genres. Vous avez notamment coécrit avec Flora Vincent le livre « Intelligence artificielle, pas sans elle ». Alors l'intelligence artificielle, ça bouleverse le 21e siècle et c'est amené, voilà, ça nous entoure, ça amène à nous entourer de plus en plus. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous dire un petit peu dans quelles applications concrètes au quotidien on retrouve l'intelligence artificielle ?
Alors, il faut vraiment se dire que c'est partout autour de nous. J'aime bien dire que c'est un peu comme l'électricité, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment partout. Quand on regarde un film, les algorithmes qui vont nous proposer de regarder tel ou tel film, quand on va à la banque et qu'on va nous demander si on a envie, si pour prédire, je sais pas, un taux de prêt bancaire, ça va être quand on va chercher à aller à l'université, ça va être même quand vous regardez dans votre téléphone sur Marmiton des recettes de cuisine. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas un seul secteur aujourd'hui qui n'est pas impacté par l'intelligence artificielle. Et bien sûr, dans le domaine de la science, ça va être dans la biologie, ça peut être dans l'informatique lui-même, dans l'aéronautique, enfin, partout. Je pense qu'on pourrait me donner n'importe quel exemple de secteur et je pourrais trouver une application de l'intelligence artificielle.
Et vous, par exemple, dans votre travail au quotidien, est-ce qu'il y a un appareil ou une technologie qui s'en sert ?
Alors, oui, plusieurs. Et d'ailleurs, moi-même, je travaille à l'interface de l'informatique et de la biologie. Et du coup, on développe nous-mêmes des algorithmes qui nous permettent de, par exemple, être capable de prédire si un virus va réussir à infecter une bactérie ou pas. Mais au quotidien, il y a une avancée absolument exceptionnelle qui a été faite en biologie récemment. C'est la capacité d'un algorithme qui s'appelle donc AlphaFold à prédire à partir d'une séquence d'ADN, la forme 3D d'une protéine. C'était un problème qui n'avait pas été résolu depuis 70 ans en biologie. Et là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a réussi à faire des progrès exceptionnels là-dedans.
Donc beaucoup d'applications concrètes aussi dans le domaine scientifique. Et pourtant, malgré le fait qu'elle nous entoure, il n'y a que 12% des femmes qui travaillent dans ce secteur. Donc c'est très peu. Comment ça s'explique ?
Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a un, tous les biais et stéréotypes, on va dire classiques, qui viennent empêcher les femmes de participer à la sphère scientifique. Et donc là, ben, ça va être aussi bien, quand on est petit, on va souvent, quand on est une fille, on va moins nous mettre devant un ordinateur que quand on est un garçon. L'image qu'on peut se faire de ce que c'est qu'être dans le milieu de l'informatique, avec notamment l'image du geek, font que les femmes vont moins facilement choisir l'informatique. Et ensuite, une fois qu'on a des domaines qui sont très peu mixtes, ils sont souvent moins, on va dire, faciles à vivre pour la minorité qui est dedans. Et du coup, il y a, en plus de ne pas avoir beaucoup de femmes au début, elles vont petit à petit partir beaucoup plus que les hommes. Et du coup, ce qui fait que même des femmes qui vont avoir commencé par faire de l'informatique vont se diriger vers d'autres domaines parce qu'au final, même dans leur milieu professionnel, elles vont être victimes de sexisme, elles vont être moins recommandées, moins mises en avant beaucoup de biais un peu insidieux et pas forcément très faciles à pointer qui vont faire qu'au final, ça crée un environnement de travail qui va les pousser vers la sortie.
Et le fait que justement il y ait plus de 90% d'hommes, presque, dans l'intelligence artificielle en particulier, ça a un impact concret puisque ça perpétue des stéréotypes sexués. Comment ça se passe exactement ? Comment ces stéréotypes sont intégrés dans l'intelligence artificielle ? Et quel genre de stéréotypes en particulier ?
Alors oui, nous, dans le livre, on part de constats qui sont le constat que quand on regarde les résultats, ce qu'on va dire, ce que produisent les algorithmes issus de l'intelligence artificielle, on voit des biais. Je prends un exemple très concret, le logiciel de traduction Google Translate. Bah, quand vous mettez d'une langue non genrée à une langue genrée, disons de l'anglais au français, vous tapez « a nurse », ça va traduire « une infirmière ». Vous mettez « a surgeon », ça va traduire « un chirurgien ». Exemple typique, il y en a pas mal d'autres qu'on peut voir qui vont s'appliquer, on va dire, à tout un tas de domaines, mais celui-là, je le trouve assez clair et parlant. Et la question, c'est comment on en arrive là. Et au final, selon nous, ce qu'on défend, c'est qu'en fait, il y a plein de mécanismes et que ces mécanismes existent aussi bien parce que les algorithmes vont refléter la société dans laquelle on vit, qui est une société sexiste. Ils ne sont pas plus sexistes que la société, c'est juste qu'ils ont existé dans une société sexiste et du coup, ils la reflètent. Et de l'autre, qu'au final, la composition des équipes et la sensibilisation des équipes à ces questions-là vont faire que ces biais peuvent continuer à paraître inaperçus. Et là, j'en veux pour exemple la reconnaissance faciale sur un téléphone où il y a une étude qui avait démontré qu'elle était beaucoup plus efficace sur les hommes blancs que sur les femmes noires. Et en fait, la personne qui s'en est rendue compte est une femme noire qui est une chercheuse au MIT et qui travaillait sur ces questions-là. Et juste en essayant, ça marchait moins bien. Donc on se dit bien qu'il y a un lien et il y a maintenant des études scientifiques qui démontrent que la composition des équipes scientifique va impacter à quel point la prise en compte des problèmes de sexe et de genre vont être le cas dans des problématiques technologiques sur lesquelles ces équipes travaillent.
Donc en plus de perpétuer des stéréotypes sexistes, on retrouve aussi des stéréotypes racistes. Et en quoi on peut lutter contre ? Comment on peut faire justement ? Est-ce qu'il y a des solutions pour ça ?
Alors la bonne nouvelle, c'est que oui, moi je dis toujours, les gens, c'est horrible, une discipline aussi nouvelle, déjà sexiste, en fait, tout est sexiste dans notre société. Ce qu'on peut donner à l'intelligence artificielle, c'est que on peut dire que c'est ces 10 dernières années qu'il y a eu un très fort développement. Bah, quand même très vite après l'existence, il y a eu une prise de conscience que les produits étaient sexistes, racistes, enfin, voilà. Et du coup, il y a une prise de conscience. C'est l'élément le plus important. Maintenant qu'il y a une prise de conscience, on est capable d'essayer de traiter le problème. Et ces solutions, elles vont être d'ordre technique, c'est-à-dire que, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais ce qui va faire qu'on va arriver typiquement à des algorithmes sexistes, ça va être entre autres, à chaque étape de conception d'algorithme, mais un exemple facile, c'est à quel point les bases de données sur lesquelles les algorithmes vont apprendre vont être biaisées. C'est-à-dire que si je donne pour de la reconnaissance faciale que des photos d'hommes blancs, bah c'est sûr que ce sera moins bon sur des femmes noires. Et du coup, dans cette idée-là, il y a des solutions techniques à développer, mettre en place des bases de données qui seraient équilibrées, développer des définitions de ce que c'est qu'un algorithme équitable. Donc, beaucoup de choses, mais il n'y a pas que des solutions techniques, il y a aussi des solutions humaines à mettre en place, donc rendre les équipes plus mixtes, mais aussi former les gens à ces questions-là. Et donc c'est former les gens qui vont développer les algorithmes, les former au fait qu'ils peuvent introduire des biais sans en être conscients, et du coup ça veut juste dire rajouter des points de contrôle pour vérifier que ces algorithmes ne sont pas biaisés, mais aussi former les utilisateurs et les utilisatrices, ce à quoi on pense moins. Parce que voilà, quelqu'un qui est par exemple dans les ressources humaines et qui va utiliser un algorithme pour trier des CV et recruter, eh bien, en fait, cette personne doit être consciente que cet algorithme peut générer des biais et doit en prendre compte. Je donne toujours l'exemple du micro-ondes. Si on se sert mal d'un micro-ondes, ça peut être très dangereux, mais on peut aussi très bien s'en servir. Et la responsabilité peut être aussi bien à la personne qui a développé le micro-ondes qu'à la personne qui l'utilise.
Et quelles solutions on peut mettre en place aussi pour augmenter le nombre de femmes dans le secteur de l'intelligence artificielle et dans les sciences en général ? Est-ce que ça passe aussi par la formation dans le très jeune âge, dans les collèges, une sensibilisation ?
Alors, c'est une évidence que si on veut avoir plus de personnes qui prennent part à une discipline, et je pense que c'est le cas, il faut un peu changer les mentalités, ce qui est toujours très dur. Il faut détruire les stéréotypes. Et pour détruire ces stéréotypes et les faire évoluer, il y a plein de façons de faire. Il y a évidemment, permettre aux gens de découvrir ce que c'est que vraiment l'informatique. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent. Permettre aussi de voir tous les débouchés que peuvent avoir ces métiers-là et pas de se dire que c'est simplement coder pour coder, c'est coder pour quoi faire. C'est enseigner le code comme un peu un langage universel, donc enseigner ça au collège, au lycée, pour que les gens comprennent vraiment ce qu'il y a derrière et aillent au-delà des stéréotypes. Et ensuite, à chaque étape de la formation, s'assurer que les femmes ne vont pas partir. Donc dans les études, tout faire pour... Voilà. Et ce qui est extrêmement rassurant, c'est qu'en fait, on sait que ces choses-là, ça marche. L'école 42, par exemple, qui est une école d'informatique, a mis en place de façon extrêmement agressive un certain nombre de mesures pour augmenter et ils sont arrivés en très peu d'années, arrivés jusqu'à 42% de femmes qu'ils arrivaient à recruter. Et ça, ça venait du fait que, par exemple, ils ont élargi certains critères de recrutement pour avoir des femmes qui étaient en reconversion et qui étaient plus âgées. Ils ont permis de mettre en place, dans la façon dont ils les recrutaient ensuite, dont ils les aidaient à passer leur diplôme, des choses particulières qui pouvaient les aider. Donc, c'est toute une série de choses très concrètes qui peuvent permettre de faire ça. Donc, vraiment, pour moi, il y a les associations, les gouvernements, les entreprises, tout le monde peut s'y mettre. Il faut juste que ce soit un effort constant.
Et on parle d'association, vous avez fondé justement une association en 2013, Wax Science, donc toujours avec Flora Vincent, dont l'objectif est de promouvoir une science sans stéréotypes auprès des jeunes et la mixité hommes-femmes dans les sciences. Pourquoi c'était important aussi pour vous d'avoir cet engagement associatif-là ?
Alors oui, donc on a cofondé cette association à la base pour partager notre joie qu'on a dans les sciences. Et en fait, c'était... aller au-delà des stéréotypes parce que nous, ce qu'on vivait au quotidien, c'était pas ce qu'on voyait dans les stéréotypes et c'était pas les stéréotypes que nous, on avait eus quand on était au collège ou au lycée. Et du coup, c'est parti de là. Et c'est intéressant parce qu'on était étudiante en master à cette époque. Et en fait, au début, c'était vraiment pour partager ça. Et on se disait, mais pour qu'il y ait plus de gens, il faudrait juste que les gens ils soient au courant de ce qui se passe. Et en fait, en s'intéressant à ces sujets, on a ensuite découvert tous les biais et tous les problèmes. On dit qu'on a mis des lunettes genrées un peu. C'est-à-dire qu'on commençait à voir tout à travers ça. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que nous, on pensait qu'on n'avait jamais de problème. Et souvent, on se disait, ah non, on n'a pas du tout été biaisés. On n'a pas du tout eu de stéréotypes. On n'était pas victime du tout de sexisme. En fait, quand on a commencé à réanalyser plein de choses et à regarder tout autour de nous, en fait, tout d'un coup, ça nous a explosé aux yeux. Et maintenant, moi, je le vois tout le temps, partout. Donc, le but, c'est de quand même partager cette vision extrêmement positive de ce que peut être la science et différente de celle qu'on peut avoir en tête. Et aussi, de faire des choses comme le livre ou comme autre chose pour se poser, en fait, toutes les questions qu'il y a entre féminisme et égalité homme-femme et science. Et celle-là, ça va être de pourquoi les femmes participent trop peu aux sciences, mais aussi, comme ce qu'on vient de voir sur les algorithmes, pourquoi les sciences elles-mêmes peuvent être biaisées ensuite. Et tout ça, en fait, c'est lié. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de traiter tous ces aspects du problème en essayant de mettre en place un certain nombre de solutions, que ce soit dans des solutions très concrètes qu'on peut développer dans l'association ou dans les réflexions qu'on a pu avoir, qu'on a pu développer dans le livre, par exemple.
Merci beaucoup, Aude Bernheim.
Merci à vous.
Et la conférence d'Aude Bernheim, comme toutes les conférences de l'espace des sciences, est à revoir en replay sur leur chaîne YouTube.
Et merci beaucoup, Rebecca.